L'éducation sentimentale, deuxième partie, chapitre 4. La maréchale était prête et l'attendait. « C'est gentil, cela !» dit-elle, en fixant sur lui ses jolis yeux, à la fois tendres et gais. Quand elle eut fait le nœud de sa capote, elle s'assit sur le divan et resta silencieuse. « Partons-nous ? » dit Frédéric. Elle regarda la pendule. « Oh non, pas avant 1h30 !» comme si elle eût posé en elle-même cette limite à son incertitude. Enfin, l'heure ayant sonné, « Eh bien, andiamo, caro mio !» Et elle donna un dernier tour à ses bandeaux, fit des recommandations à Delphine. « Madame revient dîner ? Pourquoi donc ? Nous dînerons ensemble quelque part, au café anglais, où vous voudrez. » « Soit. » Ses petits chiens jappaient autour d'elle. « On peut les emmener, n'est-ce pas ?» Frédéric les porta, lui-même, jusqu'à la voiture. C'était une berline de louage, avec 2 chevaux de poste et 1 postillon. Il avait mis sur le siège de derrière son domestique. La maréchale parut satisfaite de ses prévenances. Puis, dès qu'elle fut assise, lui demanda si elle avait été chez Arnoux dernièrement. « Pas depuis 1 mois, » dit Frédéric. « Moi, je l'ai rencontré avant-hier. Il serait même venu aujourd'hui. Mais il a toutes sortes d'embarras. Encore un procès, je ne sais quoi. Quel drôle d'homme !»« Oui, très drôle. » Frédéric ajouta d'un air indifférent. « À propos, voyez-vous toujours, comment donc l'appelez-vous, cet ancien chanteur, Delmar ?» Elle répliqua sèchement. « Non, c'est fini. » Ainsi, leur rupture était certaine. Frédéric en conçut de l'espoir. Ils descendirent au pas le quartier Bréda. Les rues, à cause du dimanche, étaient désertes et des figures de bourgeois apparaissaient derrière des fenêtres. La voiture prit un train plus rapide. Le bruit des roues faisait se retourner les passants. Le cuir de la capote rabattue brillait, le domestique se cambrait la taille, et les 2 havanais l'un près de l'autre semblaient 2 manchons d'hermine posés sur les coussins. Frédéric se laissait aller au bercement des soupentes. La maréchale tournait la tête, à droite et à gauche, en souriant. Son chapeau de paille nacrée avait une garniture de dentelle noire. Le capuchon de son burnous flottait au vent, et elle s'abritait du soleil sous une ombrelle de satin lilas, pointue par le haut comme une pagode. « Quels amours de petits doigts !» dit Frédéric en lui prenant doucement l'autre main, la gauche, ornée d'un bracelet d'or en forme de gourmette. « Tiens, c'est mignon, d'où cela vient-il ? » « Oh, il y a longtemps que je l'ai !» dit la maréchale. Le jeune homme n'objecta rien à cette réponse hypocrite. « Il aima mieux profiter de la circonstance. » Et, lui tenant toujours le poignet, il appuya dessus ses lèvres, entre le gant et la manchette. « Finissez, on va nous voir !»« Bah, qu'est-ce que cela fait ?» Après la place de la Concorde, ils prirent par le quai de la Conférence et le quai de Billy, où l'on remarque un cèdre dans un jardin. Rosanette croyait le Liban situé en Chine. Elle rit elle-même de son ignorance et pria Frédéric de lui donner des leçons de géographie. Puis, laissant à droite le Trocadéro, ils traversèrent le pont d'Iéna et s'arrêtèrent enfin au milieu du Champ de Mars, près des autres voitures déjà rangées dans l'hippodrome. Les tertres de gazon étaient couverts de menus peuples. On apercevait des curieux sur le balcon de l'école militaire. Et les 2 pavillons en dehors du pesage, les 2 tribunes comprises dans son enceinte et 1/3 devant celle du roi, se trouvaient remplis d'une foule en toilette qui témoignait par son maintien de la révérence pour ce divertissement encore nouveau. Le public des courses, plus spécial dans ce temps-là, avait un aspect moins vulgaire. C'était l'époque des sous-pieds, des collets de velours et des gants blancs. Les femmes, vêtues de couleurs brillantes, portaient des robes à taille longue et, assises sur les gradins des estrades, elles faisaient comme de grands massifs de fleurs, tachetée de noir, çà et là, par les sombres costumes des hommes. Mais tous les regards se tournaient vers le célèbre Algérien Boumaza, qui se tenait impassible entre deux officiers d'état-major dans une des tribunes particulières. Celle du Jockey Club contenait exclusivement des messieurs graves. Les plus enthousiastes s'étaient placés en bas contre la piste, défendue par deux lignes de bâtons supportant les cordes. Dans l'ovale immense que décrivait cette allée, des marchands de coco agitaient leurs crécelles, d'autres vendaient le programme des courses, d'autres criaient des cigares, un vaste bourdonnement s'élevait. Les gardes municipaux passaient et repassaient. Une cloche, suspendue à un poteau couvert de chiffres, tinta. Cinq chevaux parurent et on rentra dans les tribunes. Cependant, de gros nuages effleuraient de leur volute la cime des ormes en face. Rosanette avait peur de la pluie. « J'ai des riflards, » dit Frédéric, « et tout ce qu'il faut pour se distraire. » ajouta-t-il en soulevant le coffre où il y avait des provisions de bouche dans un panier. « Bravo, nous nous comprenons. Et on se comprendra encore mieux, n'est-ce pas ?»« Cela se pourrait, » fit-elle en rougissant. Les jockeys en casaque de soie tâchaient d'aligner leurs chevaux et les retenaient à deux mains. Quelqu'un abaissa un drapeau rouge, alors tous les cinq, se penchant sur les crinières, partirent. Ils restèrent d'abord serrés en une seule masse. Bientôt elle s'allongea, se coupa. Celui qui portait la casaque jaune au milieu du premier tour faillit tomber. Longtemps il y eut de l'incertitude entre Filly et Tibi. Puis Tom Pouce parut en tête, mais Club Stick, en arrière depuis le départ, les rejoignit et arriva premier, battant Sir Charles de deux longueurs. Ce fut une surprise. On criait. Les baraques de planches vibraient sous les trépignements. « Nous nous amusons, » dit la maréchale. « Je t'aime, mon chéri. » Frédéric ne douta plus de son bonheur. Ce dernier mot de Rosanette le confirmait. À 100 pas de lui, dans un cabriolet Milord, une dame parut. Elle se penchait en dehors de la portière, puis se renfonçait vivement. Cela recommença plusieurs fois. Frédéric ne pouvait distinguer sa figure. Un soupçon le saisit, et il lui sembla que c'était Madame Arnoux. Impossible, cependant. Pourquoi serait-elle venue? Il descendit de voiture sous prétexte de flâner au pesage. « Vous n'êtes guère galant, » dit Rosanette. Il n'écouta rien et s'avança. Le milord, tournant bride, se mit au trot. Frédéric, au même moment, fut happé par Sisi. « Bonjour, cher, comment allez-vous? Hussonnet est là-bas. Écoutez donc !» Frédéric tâchait de se dégager pour rejoindre le milord. La maréchale lui faisait signe de retourner près d'elle. Sisi l'aperçut et voulait obstinément lui dire bonjour. Depuis que le deuil de sa grand-mère était fini, il réalisait son idéal, parvenait à avoir du cachet. Gilet écossais, habit court, large bouffette sur l'escarpin et carte d'entrée dans la ganse du chapeau. Rien ne manquait effectivement à ce qu'il appelait lui-même son chic, un chic anglomane et mousquetaire. Il commença par se plaindre du Champ de Mars, turf exécrable, parla ensuite des courses de chantilly et des farces qu'on y faisait. Jura qu'il pouvait boire 12 verres de vin de champagne pendant les 12 coups de minuit. Proposa à la maréchale de parier, caressait doucement ses deux bichons. Et de l'autre coude, s'appuyant sur la portière, il continuait à débiter des sottises. Le pommeau de son stick dans la bouche, les jambes écartées, les reins tendus. Frédéric, à côté de lui, fumait, tout en cherchant à découvrir ce que le milord était devenu. La cloche ayant tinté, Sisi s'en alla, au grand plaisir de Rosanette. « Qu'il ennuyait beaucoup, » disait-elle. La seconde épreuve n'eut rien de particulier, la troisième non plus, sauf un homme qu'on emporta sur un brancard. la quatrième, où 8 chevaux disputèrent le prix de la ville, fut plus intéressante. Les spectateurs des tribunes avaient grimpé sur les bancs. Les autres, debout dans les voitures, suivaient avec des lorgnettes à la main l'évolution des jockeys. On les voyait filer comme des taches rouges, jaunes, blanches et bleues sur toute la longueur de la foule qui bordait le tour de l'hippodrome. De loin, leur vitesse n'avait pas l'air excessive. À l'autre bout du champ de Mars, ils semblaient même se ralentir et ne plus avancer que par une sorte de glissement où les ventres des chevaux touchaient la terre, sans que leurs jambes étendues pliassent. Mais, revenant bien vite, ils grandissaient. Leur passage coupait le vent, le sol tremblait, les cailloux volaient. L'air, s'engouffrant dans les casaques des jockeys, les faisait palpiter comme des voiles. À grands coups de cravache, ils fouillaient leurs bêtes pour atteindre le poteau. C'était le but. On enlevait les chiffres, un autre était hissé. Et au milieu des applaudissements, le cheval victorieux se traînait jusqu'au pesage, tout couvert de sueur, les genoux raidis, l'encolure basse, tandis que son cavalier, comme agonisant sur sa selle, se tenait les côtes. Une contestation retarda le dernier départ. La foule qui s'ennuyait se répandit. Des groupes d'hommes causaient au bas des tribunes. Les propos étaient libres. Des femmes du monde partirent, scandalisées par le voisinage des lorettes. Il y avait aussi des illustrations de bals publics, des comédiennes du boulevard. Et ce n'étaient pas les plus belles qui recevaient le plus d'hommages. La vieille Georgine Aubert, celle qu'un vaudevilliste appelait le Louis XI de la prostitution, horriblement maquillée et poussant de temps à autre une espèce de rire pareil à un grognement, restait tout étendue dans sa longue calèche sous une palatine de martre comme en plein hiver. Madame de Romousseau, mise à la mode par son procès, trônait sur le siège d'un break en compagnie d'Américains. Et Thérèse Bachelu, avec son air de vierge gothique, emplissait de ses 12 falbalas l'intérieur d'un escargot qui avait, à la place du tablier, une jardinière pleine de roses. La maréchale fut jalouse de ses gloires. Pour qu'on la remarquât, elle se mit à faire de grands gestes et à parler très haut. Des gentlemen la reconnurent, lui envoyèrent des saluts. Elle y répondait en disant leur nom à Frédéric. C'étaient tous comtes, vicomtes, ducs et marquis. Et ils se rengorgeaient, car tous les yeux exprimaient un certain respect pour sa bonne fortune. Sisi n'avait pas l'air moins heureux dans le cercle d'hommes mûrs qui l'entouraient. Ils souriaient du haut de leurs cravates, comme se moquant de lui. Enfin, il tapa dans la main du plus vieux et s'avança vers la maréchale. Elle mangeait avec une gloutonnerie affectée une tranche de foie gras. Frédéric, par obéissance, l'imitait en tenant une bouteille de vin sur ses genoux. Le milord reparut. C'était Madame Arnoux. Elle pâlit extraordinairement. « Donne-moi du champagne, » dit Rosanette. Et levant le plus haut possible son verre rempli, elle s'écria « Ohé, là-bas, les femmes honnêtes, l'épouse de mon protecteur, ohé !» Des rires éclatèrent autour d'elle, le milord disparut. Frédéric la tirait par sa robe et l'allait s'emporter. Mais Sisi était là, dans la même attitude que tout à l'heure, et avec un surcroît d'aplomb, il invita Rosanette à dîner pour le soir même. « Impossible !» répondit-elle. « Nous allons ensemble au café anglais. » Frédéric, comme s'il n'eût rien entendu, demeura muet, et Sisi quitta la maréchale d'un air désappointé. Tandis qu'il lui parlait, debout contre la portière de droite, Hussonnet était survenu du côté gauche, et, relevant ce mot de « café anglais »,« C'est un joli établissement, si l'on y cassait une croûte, hein ?»« Comme vous voudrez, » dit Frédéric, qui, affaissé dans le coin de la berline, regardait à l'horizon le milord disparaître, sentant qu'une chose irréparable venait de se faire et qu'il avait perdu son grand amour. Et l'autre était là, près de lui, l'amour joyeux et facile. Mais, lassé, plein de désirs contradictoires et ne sachant même plus ce qu'il voulait, il éprouvait une tristesse démesurée, une envie de mourir. Un grand bruit de pas et de voix lui fit relever la tête. Les gamins, enjambant les cordes de la piste, venaient regarder les tribunes. On s'en allait. Quelques gouttes de pluie tombèrent, l'embarras des voitures augmenta. Hussonnet était perdu. « Eh bien, tant mieux !» dit Frédéric. « On préfère être seul ?» reprit la maréchale en posant la main sur la sienne. Alors passa devant eux, avec des miroitements de cuivre et d'acier, un splendide landau attelé de 4 chevaux, conduit à la Daumont par 2 jockeys en veste de velours à crépine d'or. Madame d'Ambreuse était près de son mari, Martinon sur l'autre banquette en face. Tous les trois avaient des figures étonnées. « Ils m'ont reconnu !» se dit Frédéric. Rosanette voulut qu'on arrêtât pour mieux voir le défilé. Madame Arnoux pouvait reparaître. Il cria au postillon « Va donc ! Va donc ! En avant !» Et la berline se lança vers les Champs-Élysées, au milieu des autres voitures. Calèche, Brisca, Wurst, Tandem, Tilbury, Dogcart, tapissières à rideaux de cuir où chantaient des ouvriers en goguette, demi-fortune que dirigeaient avec prudence des pères de famille eux-mêmes. Dans des victorias bourrées de monde, quelques garçons, assis sur les pieds des autres, laissaient pendre en dehors ses deux jambes. De grands coupés à sièges de drap promenaient des douairières qui sommeillaient. Ou bien un steeper magnifique passait en portant une chaise, simple et coquette comme l'habit noir d'un dandy. L'averse cependant redoublait. On tirait les parapluies, les parasols, les Macintosh. On se criait de loin « Bonjour, ça va bien ? Oui, non, à tantôt !» Et les figures se succédaient avec une vitesse d'ombre chinoise. Frédéric et Rosanette ne se parlaient pas, éprouvant une sorte d'hébétude à voir auprès d'eux, continuellement, toutes ces roues tournées. Par moments, les files de voitures, trop pressées, s'arrêtaient toutes à la fois sur plusieurs lignes. Alors, on restait les uns près des autres et l'on s'examinait. Du bord des panneaux armoriés, des regards indifférents tombaient sur la foule. Des yeux pleins d'envie brillaient au fond des fiacres. Des sourires de dénigrement répondaient aux ports de tête orgueilleux. Des bouches grandes ouvertes exprimaient des admirations imbéciles. Et ça et là, quelques flâneurs au milieu de la voie se rejetaient en arrière d'un bond pour éviter un cavalier qui galopait entre les voitures et parvenait à en sortir. Puis tout se remettait en mouvement. Les cochers lâchaient les rênes, abaissaient leurs longs fouets. Les chevaux, animés, secouant leurs gourmettes, jetaient de l'écume autour d'eux. Et les croupes et les harnais humides fumaient dans la vapeur d'eau que le soleil couchant traversait. Passant sous l'arc de triomphe, il allongeait à hauteur d'homme une lumière roussâtre qui faisait étinceler les moyeux des roues, les poignées des portières, le bout des timons, les anneaux des sellettes. Et sur les deux côtés de la grande avenue, pareil à un fleuve où ondulaient des crinières, des vêtements, des têtes humaines, les arbres, tout reluisants de pluie, se dressaient comme deux murailles vertes. Le bleu du ciel au-dessus, reparaissant à de certaines places, avait des douceurs de satin. Alors, Frédéric se rappela les jours, déjà loin, où il enviait l'inexprimable bonheur de se trouver dans une de ses voitures, à côté d'une de ses femmes. Il le possédait, ce bonheur-là, et il n'en était pas plus joyeux. La pluie avait fini de tomber. Les passants, réfugiés entre les colonnes du garde-meuble, s'en allaient. Des promeneurs dans la rue Royale remontaient vers le boulevard. Devant l'hôtel des affaires étrangères, une file de badauds stationnait sur les marches. À la hauteur des bains chinois, comme il y avait des trous dans le pavé, la berline se ralentit. Un homme en paletot noisette marchait au bord du trottoir. Une éclaboussure, jaillissant de dessous les ressorts, s'étala dans son dos. L'homme se retourna furieux. Frédéric devint pâle. Il avait reconnu des lauriers. À la porte du café anglais, il renvoya la voiture. Rosanette était montée devant lui pendant qu'il payait le postillon. Il la retrouva dans l'escalier, causant avec un monsieur. Frédéric prit son bras. Mais au milieu du corridor, un deuxième seigneur l'arrêta. « Va toujours, » dit-elle, « je suis à toi. » Et il entra seul dans le cabinet. Par les deux fenêtres ouvertes, on apercevait du monde aux croisées des autres maisons vis-à-vis. De larges moires frissonnaient sur l'asphalte qui séchait et un magnolia posé au bord du balcon embaumait l'appartement. Ce parfum et cette fraîcheur détendirent ses nerfs. Il s'affaissa sur le divan rouge au-dessous de la glace. La maréchale revint et, le baisant au front, « On a des chagrins, pauvre Mimi !»« Peut-être, » répliqua-t-il. « Tu n'es pas le seul, va. » Ce qui voulait dire « Oublions chacun les nôtres dans une félicité commune. » Puis elle posa un pétale de fleur entre ses lèvres et le lui tendit à becqueter. Ce mouvement, d'une grâce et presque d'une mansuétude lascive, attendrit Frédéric. « Pourquoi me fais-tu de la peine ? » dit-il en songeant à Madame Arnoux. « Moi ? De la peine ?» Et debout devant lui, elle le regardait, les cils rapprochés et les deux mains sur les épaules. Toute sa vertu, toute sa rancune sombra dans une lâcheté sans fond. Il reprit « Puisque tu ne veux pas m'aimer !» en l'attirant sur ses genoux. Elle se laissait faire. Il lui entourait la taille à deux bras. Le pétillement de sa robe de soie l'enflammait. « Où sont-ils ? » dit la voix du sonnet dans le corridor. La maréchale se leva brusquement et alla se mettre à l'autre bout du cabinet, tournant le dos à la porte. Elle demanda des huîtres et ils s'attablèrent. Hussonnet ne fut pas drôle. À force d'écrire quotidiennement sur toutes sortes de sujets, de lire beaucoup de journaux, d'entendre beaucoup de discussions et d'émettre des paradoxes pour éblouir, il avait fini par perdre la notion exacte des choses, s'aveuglant lui-même avec ses faibles pétards. Les embarras d'une vie légère autrefois, mais à présent difficile, l'entretenaient dans une agitation perpétuelle. Et son impuissance, qu'il ne voulait pas s'avouer, le rendait hargneux, sarcastique. À propos d'Osaïe, un ballet nouveau, il fit une sortie à fond contre la danse, et à propos de la danse, contre l'opéra. Puis, à propos de l'opéra, contre les Italiens, remplacé maintenant par une troupe d'acteurs espagnols. Comme si l'on n'était pas rassasié des Castilles. Frédéric fut choqué dans son amour romantique de l'Espagne. Et afin de rompre la conversation, il s'informa du Collège de France, d'où l'on venait d'exclure Edgar Quinet et Mickiewicz. Mais Hussonnet, admirateur de M. de Maistre, se déclara pour l'autorité et le spiritualisme. Il doutait cependant des faits les mieux prouvés, nier l'histoire et contester les choses les plus positives, jusqu'à s'écrier au mot géométrie « Quelle blague que la géométrie !» Le tout entremêlé d'imitations d'acteurs. Saint-Ville était particulièrement son modèle. Ces calembres d'haine assommaient Frédéric. Dans un mouvement d'impatience, il attrapa avec sa botte un des bichons sous la table. Tous deux se mirent à aboyer d'une façon odieuse. « Vous devriez les faire reconduire, » dit-il brusquement. Rosanette n'avait confiance en personne. Alors il se tourna vers le bohème. « Voyons, Hussonnet, dévouez-vous. »« Oh oui, mon petit, ce serait bien aimable. » Hussonnet s'en alla sans se faire prier. De quelle manière payait-on sa complaisance ? Frédéric n'y pensa pas. Il commençait même à se réjouir du tête-à-tête lorsqu'un garçon entra. « Madame, quelqu'un vous demande. »« Comment encore ? Il faut pourtant que je voie, dit Rosanette. Il en avait soif, besoin. Cette disparition lui semblait une forfaiture, presque une grossièreté. Que voulait-elle donc? N'était-ce pas assez d'avoir outragé Madame Arnoux? Tant pis pour celle-là, du reste. Maintenant, il haïssait toutes les femmes. Et des pleurs l'étouffaient, car son amour était méconnu et sa concupiscence trompée. La maréchale rentra et, lui présentant Sisi, « J'ai invité monsieur. J'ai bien fait, n'est-ce pas ?»« Comment donc, certainement ?» Frédéric, avec un sourire de supplicié, fit signe au gentilhomme de s'asseoir. La maréchale se mit à parcourir la carte en s'arrêtant au nom bizarre. « Et si nous mangions, je suppose, un turban de lapin à la Richelieu et un pudding à la d'Orléans ?»«
Oh, pas d'Orléans !» s'écria Sisi,
lequel était légitimiste et crut faire un mot. « Aimez-vous mieux un turbo à la Chambord ? » reprit-elle. Cette politesse choqua Frédéric. La maréchale se décida pour un simple tourne-d'eau, des écrevisses, des truffes, une salade d'ananas, des sorbets à la vanille. « Nous verrons ensuite. Allez toujours. Ah, j'oubliais. Apportez-moi un saucisson. Pas à l'ail. » Et elle appelait le garçon « jeune homme », frappait son verre avec son couteau, jetait au plafond la mie de son pain. Elle voulut boire tout de suite du vin de Bourgogne. « On n'en prend pas dès le commencement, » dit Frédéric. Cela se faisait quelquefois, suivant le vicomte.
« Eh non, jamais !»«
Si fait, je vous assure !»«
Ah, tu vois !»
Le regard dont elle accompagna cette phrase signifiait « C'est un homme riche, celui-là, écoute-le !» Cependant, la porte s'ouvrait à chaque minute. Les garçons glapissaient, et sur un infernal piano, dans le cabinet à côté, quelqu'un tapait une valse. Puis les cours s'amenèrent à parler d'équitation et des deux systèmes rivaux. Sisi défendait Baucher, Frédéric le comte d'Or, quand Rosanette haussa les épaules.
« Assez, mon Dieu, il s'y connaît mieux que toi, va !»
Elle mordait dans une grenade, le coude posé sur la table. Les bougies du candélabre devant elle tremblaient au vent. Cette lumière blanche pénétrait sa peau de ton nacré, mettait du rose à ses paupières, faisait briller les globes de ses yeux. La rougeur du fruit se confondait avec la pourpre de ses lèvres. Ses narines minces battaient, et toute sa personne avait quelque chose d'insolent, d'ivre et de noyé qui exaspérait Frédéric, et pourtant lui jetait au cœur des désirs fous. Puis elle demanda, d'une voix calme, à qui appartenait ce grand landau avec une livrée marron.
« À la comtesse d'Ambreuse, » répliqua Sisi.
« Ils sont très riches, n'est-ce pas ?»«
Oh, très riches !»
Bien que Madame d'Ambreuse, qui est tout simplement une demoiselle Boutron, la fille d'un préfet, ait une fortune médiocre. Son mari, au contraire, devait recueillir plusieurs héritages. Sisi les énuméra. Fréquentant les d'Ambreuse, il savait leur histoire. Frédéric, pour lui être désagréable, s'entêta à le contredire. Il soutint que Madame d'Ambreuse s'appelait de Boutron, certifiait sa noblesse. « N'importe, je voudrais bien avoir son équipage, » dit la maréchale en se renversant sur le fauteuil. Et la manche de sa robe, glissant un peu, découvrit à son poignet gauche un bracelet orné de 3 opales. Frédéric l'aperçut. « Tiens, mais... » Ils se considèrent tous les trois et rougirent. La porte s'entrebâilla discrètement. Le bord d'un chapeau parut, puis le profil du sonnet.
« Excusez si je vous dérange, les amoureux !»
Mais il s'arrêta, étonné de voir Sisi et de ce que Sisi avait pris sa place. On apporta un autre couvert, et comme il avait grand faim, il empoignait au hasard, parmi les restes du dîner, de la viande dans un plat, un fruit dans une corbeille, buvait d'une main, se servait de l'autre, tout en racontant sa mission. Les deux toutous étaient reconduits. rien de neuf au domicile. Il avait trouvé la cuisinière avec un soldat, histoire fausse, uniquement inventée pour produire de l'effet. La maréchale décrocha de la patère sa capote. Frédéric se précipita sur la sonnette en criant de loin au garçon « Une voiture !»«
J'ai la mienne !» dit le vicomte. « Mais monsieur, cependant monsieur !»
Et ils se regardaient dans les prunelles, pâles tous les deux et les mains tremblantes. Enfin la maréchale prit le bras de Sisy et, en montrant le bohème attablé, «
Soignez-le donc, il s'étouffe. Je ne voudrais pas que son dévouement pour mes roquets le fît mourir. »
La porte retomba.
« Eh bien, » dit Hussonnet.
« Eh bien, quoi ?
Je croyais...
Qu'est-ce que vous croyez ?
Est-ce que vous ne... »
Il compléta sa phrase par un geste.
« Eh non, jamais de la vie. »
Hussonnet n'insista pas davantage. Il avait eu un but en s'invitant à dîner. Son journal, qui ne s'appelait plus L'Art, mais Le Flambard, avec cet épigraphe « Canonnier à vos pièces », ne prospérant nullement, il avait envie de le transformer en une revue hebdomadaire, seul, sans le secours de Deslauriers. Il reparla de l'ancien projet et exposa son plan nouveau. Frédéric, ne comprenant pas sans doute, répondit par des choses vagues. Hussonnet empoigna plusieurs cigares sur la table, dit « Adieu, mon bon !» et disparut. Frédéric demanda la note. Elle était longue, et le garçon, la serviette sous le bras, attendait son argent. Quand un autre, un individu blafard qui ressemblait à Martinon, vint lui dire « Faites excuse !» On a oublié au comptoir de porter le fiacre.
Quel fiacre ?
Celui que ce monsieur a pris tantôt pour les petits chiens. Et la figure du garçon s'allongea, comme s'il eût plaint le pauvre jeune homme. Frédéric eut envie de le gifler. Il donna de pourboire les 20 francs qu'on lui rendait.
Merci, monseigneur,
dit l'homme à la serviette avec un grand salut. Frédéric passa la journée du lendemain à ruminer sa colère et son humiliation. Il se reprochait de n'avoir pas souffleté Sisy. Quant à la maréchale, il se jura de ne plus la revoir. D'autres aussi belles ne manquaient pas. Et puisqu'il fallait de l'argent pour posséder ces femmes-là, il jouerait à la bourse le prix de sa ferme. Il serait riche, il écraserait de son luxe la maréchale et tout le monde. Le soir venu, il s'étonna de n'avoir pas songé à Madame Arnoux.
Tant mieux, à quoi bon ?
Le surlendemain, dès 8 heures, Pellerin vint lui faire visite. Il commença par des admirations sur le mobilier, des cajoleries, puis brusquement « Vous étiez aux courses dimanche ?»«
Oui, hélas !»
Alors le peintre déclama contre l'anatomie des chevaux anglais, vanta les chevaux de Géricault, les chevaux du Parthénon. Rosanette était avec vous ? Et il entama son éloge, adroitement. La froideur de Frédéric le décontenança. Il ne savait comment en venir au portrait. Sa première intention avait été de faire un Titien, mais peu à peu, la coloration variée de son modèle l'avait séduit. Et il avait travaillé franchement, accumulant pâte sur pâte et lumière sur lumière. Rosanette fut enchantée d'abord. Ses rendez-vous avec Delmar avaient interrompu les séances et laissé à Pellerin tout le temps de s'éblouir. Puis, l'admiration s'apaisant, il s'était demandé si sa peinture ne manquait point de grandeur. Il avait été revoir le Titien, avait compris la distance, reconnu sa faute. Et il s'était mis à repasser ses contours, simplement. Ensuite, il avait cherché, en les rongeant, à y perdre, à y mêler les tons de la tête et ceux des fonds. Et la figure avait pris de la consistance, les ombres de la vigueur. Tout paraissait plus ferme. Enfin, la maréchale était revenue. Elle s'était même permis des objections. L'artiste, naturellement, avait persévéré. Après de grandes fureurs contre sa sottise, il s'était dit qu'elle pouvait avoir raison. Alors avait commencé l'ère des doutes, tiraillement de la pensée qui provoque les crampes d'estomac, les insomnies, la fièvre, le dégoût de soi-même. Il avait eu le courage de faire des retouches, mais sans cœur et sentant que sa besogne était mauvaise. Il se plaignit seulement d'avoir été refusé au salon, puis reprocha à Frédéric de ne pas être venu voir le portrait de la maréchale. « Je me moque bien de la maréchale. » Une déclaration pareille l'enhardit. « Croiriez-vous que cette bête-là n'en veut plus, maintenant ?» Ce qu'il ne disait point, c'est qu'il avait réclamé d'elle 1000 écus. Or, la maréchale s'était peu souciée de savoir qui paierait, et, préférant tirer d'Arnoux des choses plus urgentes, ne lui en avait même pas parlé. « Eh bien, et Arnoux ?» dit Frédéric. Elle l'avait relancé vers lui. L'ancien marchand de tableaux n'avait que faire du portrait. « Il soutient que ça appartient à Rosanette. »«
En effet, c'est à elle. »«
Comment ? C'est elle qui m'envoie vers vous !» répliqua Pellerin. S'il eût cru à l'excellence de son œuvre, il n'eût pas songé peut-être à l'exploiter. Mais une somme, et une somme considérable, serait un démenti à la critique, un raffermissement pour lui-même. Frédéric, afin de s'en délivrer, s'enquit de ses conditions, courtoisement. L'extravagance du chiffre le révolta. Il répondit « Oh non ! Ah non !
Vous êtes pourtant son amant, c'est vous qui m'avez fait la commande. »
« J'ai été l'intermédiaire, permettez. »«
Mais je ne peux pas rester avec ça sur les bras. »
L'artiste s'emportait.
« Ah, je ne vous croyais pas si cupide.
Ni vous si avare, serviteur. »
Il venait de partir que Sénécal se présenta. Frédéric, troublé, eut un mouvement d'inquiétude.
« Qu'y a-t-il ? »
Sénécal conta son histoire. « Samedi. » Vers 9 heures, Madame Arnoux a reçu une lettre qui l'appelait à Paris. Comme personne, par hasard, ne se trouvait là pour aller à Creil chercher une voiture, elle avait envie de m'y faire aller moi-même. J'ai refusé, car ça ne rentre pas dans mes fonctions. Elle est partie et revenue dimanche soir. Hier matin, Arnoux tombe à la fabrique. La Bordelaise s'est plainte. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux, mais il a levé son amende devant tout le monde. Nous avons échangé des paroles vives. Bref, il m'a donné mon compte et me voilà. » Puis, détachant ses paroles, « Au reste, je ne me repens pas, j'ai fait mon devoir. N'importe, c'est à cause de vous.
Comment ? »
s'écria Frédéric, ayant peur que Sénécal ne l'eût deviné. Sénécal n'avait rien deviné, car il reprit « C'est-à-dire que, sans vous, j'aurais peut-être trouvé mieux. »
Frédéric fut saisi d'une espèce de remords. « En quoi puis-je vous servir maintenant ?»
Sénécal demandait un emploi quelconque, une place.
« Cela vous est facile, vous connaissez tant de monde.
Monsieur d'Ambreuse, entre autres, à ce que m'a dit Deslauriers. »
Ce rappel de Deslauriers fut désagréable à son ami. Il ne se souciait guère de retourner chez les D'Ambreuse depuis la rencontre du Champ de Mars.
« Je ne suis pas suffisamment intime dans la maison pour recommander quelqu'un. »
Le démocrate essuya ce refus stoïquement. Et après une minute de silence,
« Tout cela, j'en suis sûr, vient de la Bordelaise et aussi de votre Madame Arnoux. »
Ce « votre » ôta du cœur de Frédéric le peu de bon vouloir qu'il gardait. Par délicatesse, cependant, il atteignit la clé de son secrétaire. Sénécal le prévint. « Merci !» Puis, oubliant ses misères, il parla des choses de la patrie, les croix d'honneur prodiguées à la fête du roi, un changement de cabinet, les affaires Drouillard et Beignet, scandale de l'époque, déclama contre les bourgeois et perdit une révolution. Un cri de japonais suspendu contre le mur arrêta ses yeux. Il le prit, en essaya le manche, puis le rejeta sur le canapé avec un air de dégoût.
« Allons, adieu, il faut que j'aille à Notre-Dame de Lorette. »«
Tiens, pourquoi ?»«
C'est aujourd'hui le service anniversaire de Godefroy Cavaignac. Il est mort à l'œuvre, celui-là. »« Mais tout n'est pas fini. Qui sait ?
Et Sénécal tendit sa main bravement. Nous ne nous reverrons peut-être jamais. Adieu.
Cet adieu, répété deux fois, son froncement de sourcils en contemplant le poignard, sa résignation et son air solennel, surtout, firent rêver Frédéric, qui bientôt n'y pensa plus.
Dans la même semaine, son notaire du Havre lui envoya le prix de sa ferme, 174 000 francs. Il en fit deux parts, plaça la première sur l'État et alla porter la seconde chez un agent de change pour la risquer à la bourse. Il mangeait dans les cabarets à la mode, fréquentait les théâtres et tâchait de se distraire, quand Hussonnet lui adressa une lettre où il narrait gaiement que la maréchale, dès le lendemain des courses, avait congédié Sisy. Frédéric en fut heureux, sans chercher pourquoi le bohème lui apprenait cette aventure. Le hasard voulut qu'il rencontrât Sisy 3 jours après. Le gentilhomme fit bonne contenance et l'invita même à dîner pour le mercredi suivant. Frédéric, le matin de ce jour-là, reçut une notification d'huissier où M. Charles-Jean-Baptiste Oudry lui apprenait qu'au terme d'un jugement du tribunal, il s'était rendu acquéreur d'une propriété sise à Belleville appartenant au sieur Jacques Arnoux et qu'il était prêt à payer les 223 000 francs montant du prix de la vente. Mais il résultait du même acte que la somme des hypothèques dont l'immeuble était grevé dépassait le prix de l'acquisition. La créance de Frédéric se trouvait complètement perdue. Tout le mal venait de n'avoir pas renouvelé en temps utile une inscription hypothécaire. Arnoux s'était chargé de cette démarche et l'avait ensuite oubliée. Frédéric s'emporta contre lui et quand sa colère fut passée, « Eh bien après, quoi ? Si cela peut le sauver, tant mieux, je n'en mourrai pas, n'y pensons plus. » Mais en remuant ses paperasses sur sa table, il rencontra la lettre d'Hussonnet et aperçut le post-scriptum qu'il n'avait point remarqué la première fois. Le bohème demandait 5 000 francs, tout juste, pour mettre l'affaire du journal en train. « Ah, oh, celui-là m'embête !» Et il le refusa brutalement dans un billet laconique. Après quoi, il s'habilla pour se rendre à la maison d'or. Sisy présenta ses convives en commençant par le plus respectable, un gros monsieur à cheveux blancs. Le marquis Gilbert Desaunay, mon parrain. Monsieur Anselme de Fort-Chambeau, dit-il ensuite, c'était un jeune homme blond et fluet, déjà chauve. Puis, désignant un quadragénaire d'allure simple, Joseph Beaufreux, mon cousin. Et voici mon ancien professeur, monsieur Vezou. Personnage moitié charretier, moitié séminariste, avec de gros favoris et une longue redingote boutonnée dans le bas par un seul bouton, de manière à faire châle sur la poitrine. Sisy attendait encore quelqu'un, le baron de Comin, qui peut-être viendra, ce n'est pas sûr. Il sortait à chaque minute, paraissait inquiet. Enfin, à 8 heures, on passa dans une salle éclairée magnifiquement et trop spacieuse pour le nombre des convives. Sisy l'avait choisi par pompe, tout exprès. Un surtout de vermeil, chargé de fleurs et de fruits, occupait le milieu de la table, couverte de plats d'argent, suivant la vieille mode française. Des raviers, pleins de salaisons et d'épices, formaient bordure tout autour. Des cruches de vin rosa, frappées de glace, se dressaient de distance en distance. 5 verres de hauteurs différentes étaient alignés devant chaque assiette, avec des choses dont on ne savait pas l'usage. 1000 ustensiles de bouche ingénieux. Et il y avait, rien que pour le service, une hure d'esturgeon mouillée de champagne, un jambon d'York au toquet, des grives au gratin, des cailles rôties, un vol au vent béchamel, un sauté de perdrix rouge, et aux deux bouts de tout cela, des effilés de pommes de terre qui étaient mêlés à des truffes. Un lustre et des girandoles illuminaient l'appartement tendu de damas rouge. « quatre domestiques en habit noir se tenaient derrière les fauteuils de maroquin. À ce spectacle, les convives se récrièrent, le précepteur surtout.
« Notre amphitryon, ma parole, a fait de véritables folies. C'est trop beau !»«
Ça ?» dit le vicomte de Sisy.
« Allons donc !»
Et dès la première cuillerée,
« Eh bien, mon vieux désonné, avez-vous été au palais royal, voir père et portier ?»«
Tu sais bien que je n'ai pas le temps !» répliqua le marquis.
Ces matinées étaient prises par un cours d'arboriculture. Ces soirées par le cercle agricole, et toutes ces après-midi par des études dans les fabriques d'instruments aratoires. Habitant la Saintonge les trois quarts de l'année, il profitait de ses voyages dans la capitale pour s'instruire, et son chapeau à large bord, posé sur une console, était plein de brochures. Mais Sisy, s'apercevant que monsieur de Fortchambault refusait du vin,
« Buvez donc, sa prelote, vous n'êtes pas crâne pour votre dernier repas de garçon. »
À ce mot, tous s'inclinèrent, on le congratulait. « Et la jeune personne, dit le précepteur, est charmante, j'en suis sûre. »«
Parbleu, s'écria Sisy,
n'importe, il a tort, c'est si bête le mariage. »«
Tu parles légèrement, mon ami, répliqua monsieur Désonnet. » tandis qu'une larme roulait dans ses yeux au souvenir de sa défunte.
Et Fortchambault répéta plusieurs fois de suite, en ricanant,
« Vous y viendrez vous-même, vous y viendrez !»
Sisy protesta. Il aimait mieux se divertir, être régence. Il voulait apprendre la savate pour visiter les tapis francs de la cité, comme le prince Rodolphe des Mystères de Paris. Tira de sa poche un brûle-gueule, rudoyait les domestiques, buvait extrêmement. Et, afin de donner de lui bonne opinion, dénigrait tous les plats. Il renvoya même les truffes, et le précepteur qui s'en délectait dit par bassesse
« Cela ne vaut pas les œufs à la neige de madame votre grand-mère. »
Puis il se remit à causer avec son voisin l'agronome, lequel trouvait au séjour de la campagne beaucoup d'avantages. Ne serait-ce que de pouvoir élever ses filles dans des goûts simples. » Le précepteur applaudissait à ses idées et le flagornait, lui supposant de l'influence sur son élève, dont il désirait secrètement être l'homme d'affaires. Frédéric était venu plein d'humeur contre Sisy. Sa sottise l'avait désarmé. Mais ses gestes, sa figure, toute sa personne lui rappelant le dîner du café anglais, l'agaçait de plus en plus. Et il écoutait les remarques désobligeantes que faisait à demi-voix le cousin Joseph, un brave garçon sans fortune, amateur de chasse et boursier. Sisy, par manière de rire, l'appela « voleur » plusieurs fois. Puis tout à coup, « Ah, le baron !» Alors entra un gaillard de 30 ans, qui avait quelque chose de rude dans la physionomie, de souple dans les membres, le chapeau sur l'oreille et une fleur à la boutonnière. C'était l'idéal du vicomte. Il fut ravi de le posséder, et sa présence l'excitant, il tenta même un calembour, car il dit, comme on passait un coq de bruyère, « Voilà le meilleur des caractères de la bruyère !» Ensuite, il adressa à monsieur de Comin une foule de questions sur des personnes inconnues à la société. Puis, comme saisi d'une idée, « Dites donc, avez-vous pensé à moi ?» L'autre haussa les épaules.
« Vous n'avez pas l'âge, mon petit-haut, impossible !»
Sisy l'avait prié de le faire admettre à son club. Mais le baron, ayant sans doute pitié de son amour-propre,
« Ah, j'oubliais, mille félicitations pour votre pari, mon cher !»«
Quel pari ?»
Celui que vous avez fait aux courses, d'aller le soir même chez cette dame. »
Frédéric éprouva comme la sensation d'un coup de fouet. Il fut calmé tout de suite par la figure décontenancée de Sisy. En effet, la maréchale, dès le lendemain, en était au regret. Quand Arnoux, son premier amant, son homme, s'était présenté ce jour-là même.
Tous deux avaient fait comprendre au vicomte qu'ils gênaient, et on l'avait flanqué dehors avec peu de cérémonie. Il eut l'air de ne pas entendre. Le baron ajouta « Que devient-elle, cette brave Rose ? A-t-elle toujours d'aussi jolies jambes ?» prouvant par ce mot qu'il la connaissait intimement. Frédéric fut contrarié de la découverte. « Il n'y a pas de quoi rougir, » reprit le baron. « C'est une bonne affaire. » Sisy claqua de la langue. « Pas si bonne. »« Ah ? » ?»« Mon Dieu, oui. D'abord, moi, je ne lui trouve rien d'extraordinaire. Et puis, on en récolte de pareilles tant qu'on veut. Car, enfin, elle est à vendre. »« Pas pour tout le monde, » reprit aigrement Frédéric. « Il se croit différent des autres, » répliqua Sisy. « Quelle farce !» Et un rire parcourut la table. Frédéric sentait les battements de son cœur l'étouffer. Il avala deux verres d'eau coup sur coup. Mais le baron avait gardé bon souvenir de Rosanette. « Est-ce qu'elle est toujours avec un certain Arnoux ?»«
Je n'en sais rien, » dit Sisy. « Je ne connais pas ce monsieur. »
Il avança néanmoins que c'était une manière d'escroc.
« Un moment !» s'écria Frédéric.
« Cependant, la chose est certaine, il a même eu un procès. »«
Ce n'est pas vrai !»
Frédéric se mit à défendre Arnoux. Il garantissait sa probité, finissait par y croire, inventait des chiffres, des preuves. Le vicomte, plein de rancune, et qui était gris d'ailleurs, s'entêta dans ses assertions, si bien que Frédéric lui dit gravement « Est-ce pour m'offenser, monsieur ?» Et il le regardait avec des prunelles ardentes comme son cigare.
« Oh, pas du tout. Je vous accorde même qu'il a quelque chose de très bien. Sa femme. »«
Vous la connaissez ?»«
Parbleu, Sophie Arnoux, tout le monde connaît ça. »«
Vous dites ?»
Sisy, qui s'était levée, répéta en balbutiant
« Tout le monde connaît ça. »«
Taisez-vous, ce ne sont pas celles-là que vous fréquentez. »«
Je m'en flatte. »
Frédéric lui lança son assiette au visage. Elle passa comme un éclair par-dessus la table, renversa deux bouteilles, démolit un compotier et, se brisant contre le surtout en trois morceaux, frappa le ventre du vicomte. Tous se levèrent pour le retenir. Il se débattait, en criant, pris d'une sorte de frénésie. Monsieur Désonnet répétait
« Calmez-vous, voyons, cher enfant !»«
Mais c'est épouvantable !»
vociférait le précepteur. Forchambault, livide comme les prunes, tremblait. Joseph riait aux éclats. Les garçons épongeaient le vin, ramassaient par terre les débris. Et le baron alla fermer la fenêtre. Car le tapage, malgré le bruit des voitures, aurait pu s'entendre du boulevard. Comme tout le monde, au moment où l'assiette avait été lancée, parlait à la fois, il fut impossible de découvrir la raison de cette offense.
Si c'était à cause d'Arnoux, de Madame Arnoux, de Rosanette ou d'un autre.
Ce qu'il y avait de certain, c'était la brutalité inqualifiable de Frédéric. Il se refusa positivement à en témoigner le moindre regret. Monsieur Désonnet tâcha de l'adoucir. Le cousin Joseph, le précepteur, Forchambault lui-même. Le baron, pendant ce temps-là, réconfortait Sisy, qui, cédant à une faiblesse nerveuse, versait des larmes. Frédéric, au contraire, s'irritait de plus en plus. Et l'on serait resté là jusqu'au jour si le baron n'avait dit pour en finir « Le vicomte, monsieur, enverra demain chez vous ses témoins. »«
Votre heure ?»«
À midi, s'il vous plaît. »«
Parfaitement, monsieur. »
Frédéric, une fois dehors, respira à plein poumon. Depuis trop longtemps, il contenait son cœur. Il venait de le satisfaire, enfin. Il éprouvait comme un orgueil de virilité. Une surabondance de forces intimes qui l'enivraient. Il avait besoin de deux témoins. Le premier auquel il songea fut Reginbard, et il se dirigea tout de suite vers un estaminet de la rue Saint-Denis. La devanture était close, mais de la lumière brillait à un carreau au-dessus de la porte. Elle s'ouvrit
et il entra en se courbant très bas sous l'auvent. Une chandelle au bord du comptoir éclairait la salle déserte. Tous les tabourets, les pieds en l'air, étaient posés sur les tables. Le maître et la maîtresse, avec leur garçon, soupaient dans l'angle près de la cuisine. Et Regimbard, le chapeau sur la tête, partageait leur repas. Et même gênait le garçon, qui était contraint à chaque bouchée de se tourner de côté quelque peu. Frédéric, lui ayant conté la chose brièvement, réclama son assistance. Le citoyen commença par ne rien répondre. Il roulait les yeux, avait l'air de réfléchir, fit plusieurs tours dans la salle et dit enfin « Oui, volontiers ». Et un sourire homicide le dérida en apprenant que l'adversaire était un noble. « Nous le ferons marcher tambour battant, soyez tranquille. D'abord, avec l'épée. » « Mais peut-être, objecta Frédéric, que je n'ai pas le droit. Je vous dis qu'il faut prendre l'épée. » répliqua brutalement le citoyen. « Savez-vous tirer ?»«
Un peu. »«
Ah, un peu ! Voilà comme ils sont tous, et ils ont la rage de faire assaut. Mais qu'est-ce que ça prouve, la salle d'armes ? Écoutez-moi, tenez-vous bien à distance en vous enfermant toujours dans des cercles, et rompez, rompez, c'est permis. Fatiguez-le, puis fendez-vous dessus, franchement. Et surtout, pas de malice. » Pas de coups à la fougère, non. De simples une-deux, des dégagements. Tenez, voyez-vous, en tournant le poignet comme pour ouvrir une serrure. Père Vautier, donnez-moi votre canne. Ah, cela suffit. Il empoigna la baguette qui servait à allumer le gaz, arrondit le bras gauche, plia le droit, et se mit à pousser des bottes contre la cloison. Il frappait du pied, s'animait, feignait même de rencontrer des difficultés, tout en criant « Y es-tu ? Y es-tu, là ?» Et sa silhouette énorme se projetait sur la muraille, avec son chapeau qui semblait toucher au plafond. Le limonadier disait de temps en temps « Bravo ! Très bien !» Son épouse également l'admirait, quoique émue. Et Théodore, un ancien soldat, en restait cloué d'ébahissement, étant du reste fanatique de Monsieur Regimbard. Le lendemain, de bonne heure, Frédéric courut au magasin de Dussardier. Après une suite de pièces, toutes remplies d'étoffes garnissant des rayons ou étendues en travers sur des tables, tandis que çà et là des champignons de bois supportaient des châles, il l'aperçut dans une espèce de cage grillée au milieu des registres et écrivant debout sur un pupitre. Le brave garçon lâcha immédiatement sa besogne. Les témoins arrivèrent avant midi. Frédéric, par bon goût, crut devoir ne pas assister à la conférence. Le baron et M. Joseph déclarèrent qu'ils se contenteraient des excuses les plus simples. Mais Regimbard, ayant pour principe de ne céder jamais et qui tenait à défendre l'honneur d'Arnoux, Frédéric ne lui avait point parlé d'autre chose. Demanda que le vicomte fît des excuses. Monsieur de Comin fut révolté de l'outrecuidance. Le citoyen n'en voulut pas démordre. Toute conciliation devenant impossible, on se battrait.